entre nous soit dit.
Épisode 1, la MPO.
Ce travail de documentaire audio s'intéresse à la genèse d'un événement produit par la Maison du patrimoine oral de Bourgogne le 14 juillet 2023. Il s'agit d'un concert qui rassemble sur scène 50 choristes avec 8 instrumentistes et chanteurs solistes pour interpréter une musique et un texte composés pour l'occasion. Il est construit à partir d'un livre intitulé « Entre nous soit dit, petit récit pour un art de la parole » écrit par Jean-Pierre Renaud et édité par la Maison du patrimoine oral de Bourgogne parce qu'il pose la même question qui rassemble cette fédération d'associations bourguignonnes, active pour certaines depuis les années 1960. Comment la transmission orale permet-elle de faire tradition et société?
Et la mission de ce mouvement, c'est de dire non, non, les gens qui sont ouvriers, ouvriers paysans, qui sont dans les classes sociales les plus basses, produisent de la culture, ont une pratique artistique de valeur aussi importante que la grande culture et l'art des institutions.
La création musicale « Entre nous soit dit » traverse toute la consistance de cette interrogation pour faire reconnaître l'art de la parole dans l'espace et dans le corps, dans une actualité vécue au présent.
Parce que nous, on ne peut pas laisser ça que comme ça.
Le premier épisode vous invite à découvrir la Maison du patrimoine oral de Bourgogne. La MPO est une fédération d'associations constituée en 2008 autour d'un projet de valorisation du patrimoine culturel immatériel. Elle archive et diffuse toute la créativité orale qui fait la culture traditionnelle et populaire de la région.
La MPOB, en fait, c'est la concrétisation de plusieurs décennies en fait, de travail associatif. On a dépassé les frontières de la musique, quoi. C'est-à-dire que c'était l'oralité, donc la musique, la langue, le conte, les échanges, la parole. Voilà.
En écoutant sa directrice et sa coordinatrice de projet nous raconter leurs activités, on comprend à quoi sert exactement cette fédération.
Alors on travaille par exemple dans ce qu'on appelle les quartiers populaires.
Les familles ont découvert ensemble les archives, ont pris vraiment conscience de ce qui se passait là-bas et de tout, ils ont pu reconstituer un pont de leur histoire familiale qu'ils n'avaient pas en fait.
On travaille aussi avec des migrants, des ressortissants bulgares qui sont les travailleurs de la forêt.
Ça va être aussi les femmes de ménage, les gens en insertion.
C'est qui, en fait, les personnes qui sont passées par cette prison?
On voit s'articuler les buts et les méthodes du projet scientifique de fabrique sociale orale qu'elle porte depuis 2018 pour conduire une réflexion approfondie sur la dimension citoyenne du patrimoine oral. Il s'agit de questionner son potentiel de transformation du lien social en recourant aux arts et aux pratiques de l'oralité comme à des outils de médiation pour parvenir à élaborer une expérience collective.
Notre rôle, c'est ça quoi. On essaye, à partir des savoirs situés des uns et des autres, de la capacité d'en parler ensemble, de faire société dans des endroits où parfois ça marche plus. Hein.
J'ai trouvé une citation qui illustre à mes yeux parfaitement les enjeux d'une telle approche de la citoyenneté et de la démocratie. Je vous la livre en introduction. Il s'agit d'un extrait de la présentation de l'édition française des écrits politiques du psychologue américain John Dewey. Face à la menace totalitaire, il devient essentiel d'insister autant que possible sur le fait que la liberté comme fin ne peut être atteinte que par la liberté comme moyen. La démocratie est donc une question non de finalité, mais de méthode. Méthode de participation et de discussion, méthode de test et de mise à l'épreuve, méthode d'éducation, méthode d'observation, bref, méthode de l'expérience. Premier épisode, la MPO.
ça va être l'occasion de refaire peuple.
Je suis Caroline Darf, directrice de la Maison du patrimoine oral.
La Maison du patrimoine oral de Bourgogne, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une maison qui abrite un mouvement associatif qui a 50 ans et qui est un mouvement pour la promotion et la défense des cultures populaires. Au départ, dans le Morvan, puis peu à peu, en Bourgogne. Avec toute cette question de ça veut dire quoi, populaire ? C'est un peu, tu vois, au début, dans les années 70, c'est évident pour tout le monde que populaire, c'est les paysans qui sont en milieu hyper rural et dont tout le monde se contrefout. Ils ont une pratique artistique dont tout le monde se contrefout aussi. Et la mission de ce mouvement, c'est de dire non, les gens qui sont ouvriers, ouvriers paysans, qui sont dans les classes sociales les plus basses, produisent de la culture, ont une pratique artistique de valeur aussi importante que la grande culture et l'art des institutions. C'était un peu un contre-mouvement à cette époque-là. Notre mouvement date de cette époque-là. En 2008, il s'est concrétisé dans un lieu. Avant, c'était plein d'associations un petit peu dispersées. Et l'idée, c'était de se fédérer dans un lieu pour devenir visible et puis aussi être plus fort parce qu'on pourrait travailler ensemble. Donc en 2008, il y a cette maison, là où on est maintenant, qui a été créée, la Maison du patrimoine oral de Bourgogne. Et dans ce lieu sont fédérées les associations de ce mouvement des années 70. Donc on a un peu agrégé tout ça. Donc il y a une association, par exemple, qui a fait un gros travail sur l'archivage documentaire. Donc on a un centre de doc où qui rassemble toutes les archives documentaires rassemblées par cette association. On a une association qui crée les festivals de musique traditionnelle depuis plus vieux encore que les années 70. Hein. C'est les premières, dans les années 60, tu vois. Elle est fédérée dans notre association. Il y a le cinéma aussi qui a voulu rajouter un peu l'image à cette histoire de l'oralité. Il y a un magazine qui s'appelle Vent du Morvan qui est, pareil, c'est une vieille histoire associative, ce magazine, et bénévole, qui est un peu le seul organe de presse. Sur l'ensemble des quatre départements du Morvan, tu vois, c'est un peu un organe de presse indépendant, etc. On a une association qui est spécialisée sur les langues locales, qui fait partie de la maison. Et on a une association qui, elle, fait des ateliers. Son objectif, c'est proposer des ateliers ouverts à tous, sans méthode, pour que n'importe qui vienne jouer de la musique trad, même s'ils n'en ont jamais joué. Donc tous les premiers samedis du mois, à Hanau et à Dijon, tous les deuxièmes samedis du mois, je crois, ou troisième, il y a 50 personnes, 60 personnes qui se rassemblent, de tout niveau confondu, même s'ils n'ont pas d'instrument, pour jouer ensemble. Voilà, selon des méthodes très bricolées, mais qui fonctionnent très bien. Et c'est assez rare, c'est des espaces assez rares, quoi. Donc nous, on est tous là, dans cette maison. Notre travail, nous, l'équipe salariée, c'est de ne pas perdre l'ancrage politique de ça. L'ancrage politique, c'est précisément que la culture populaire permet d'envisager une pratique culturelle gratuite qui appartient à tous, notamment dans les productions qui sont chantées, qui sont jouées, etc. Font partie du domaine public. C'est les musiques traditionnelles, les chants traditionnels, etc. Cette notion qu'on ne fait pas forcément du spectacle. En fait, on peut regarder. Le principe de la culture populaire, c'est tu regardes et tu fais de manière successive. Tu regardes, tu t'imprègnes, tu écoutes, puis à un moment tu t'y mets, tu essayes, tu fais avec les autres, puis tu regardes. Tu vois, c'est. Et ce phénomène de ne pas se cantonner à la culture et à l'art comme étant un spectacle, c'est profondément ancré dans le mouvement associatif, même politiquement. Les comme Jean-Pierre ou d'autres qui sont dans ce mouvement depuis le début sont des gens qui sont farouchement au clair avec ces questions-là. Donc nous, on est de tout ça. Et on essaye aujourd'hui, avec les conditions sociales d'aujourd'hui, de continuer le même travail.
Mais les paysans ouvriers, il n'y en a quasiment plus. Donc ben, on essaye de redéfinir ce que ça veut dire le populaire aujourd'hui. Qui est-ce qui est dans le populaire? Qui est-ce qu'on peut considérer comme étant peut-être les moins visibles dans la sphère culturelle, par exemple? Alors on travaille, par exemple, dans ce qu'on appelle les quartiers populaires. Voilà, parce qu'en fait, c'est populaire, c'est un autre mot pour dire pauvre. Voilà. Donc on essaye, et c'est difficile, on essaye d'envisager ces questions-là. Comment on peut travailler de la même manière avec des personnes qui n'ont pas forcément la visibilité d'autres couches de la société par rapport à leur propre pratique culturelle et artistique? Donc, bah, effectivement, ça va être dans les quartiers populaires, ça va être les personnes issues de l'immigration, ça va être les migrants actuels, ça va être aussi quand même les agriculteurs, parce qu'on se rend compte que dans les milieux de moyenne montagne comme ici, eh ben, c'est plutôt des agriculteurs très pauvres, hein, qui ne gagnent pas d'argent, en fait, hein, rarement un salaire, et qui bénéficient encore d'une transmission, qui connaissent encore des langues, des chansons, etc. Mais ça va être aussi... les femmes de ménage, les gens en insertion. Et ça va être aussi, on va dire, finalement, de manière très particulière, les gens qui ont hérité de ça. Parce que ça, tout ça est très mélangé aussi. Hein. On est beaucoup moins au clair qu'à une certaine période par rapport aux classes, au système des classes. Hein. Et aujourd'hui, par exemple, tu as des gens qui sont partis de ce milieu rural où il n'y avait pas trop d'avenir pour eux, qui sont allés dans des grandes villes, qui ont fait leur vie, qui ont gagné de l'argent. À la retraite, ils sont revenus. Et ce qui est très particulier, c'est qu'en fait, c'est des gens qui sont d'une classe sociale moyenne supérieure, mais qui vont très bien comprendre le patois, qui vont connaître des comptes locaux, etc. Et du coup, ben, nous, notre travail, c'est aussi que ça fasse société, tous ces gens ensemble. Parce qu'il y a un fond commun qui est ce qu'on appelle les cultures populaires. Voilà. La maison du patrimoine oral de Bourgogne, donc, c'est ça. Avec plein de moyens pour faire les choses. Enfin, plein de moyens. Plein de gens très compétents, qu'ils soient payés ou pas, pour essayer de faire tout ça. Mais les moyens, on n'en a pas tant que ça, justement. On essaie de se débrouiller, dans la mesure du possible, pour faire bien les choses, quoi.
Je m'appelle Vincent. Je fais des parties de chant solistes et de la cornemuse.
Quand j'ai appris à jouer de la cornemuse, en fait, je me suis inscrit rapidement dans un courant associatif. J'ai fait partie d'une association qui s'appelait, qui s'appelle toujours l'UGMM, l'Union des groupes ménétriers du Morvan. Et en fait, j'ai participé rapidement à la création d'une antenne au début de l'UGMM, qui est devenue une antenne à part, qui est devenue une association elle toute seule, qui s'appelait Mémoire Vive, et qui était chargé de numériser les archives, tous les collectages qui avaient été faits dans les années 70-80, et puis de relancer un petit peu le collectage. Donc on était quelques jeunes à l'époque. Donc il y avait Michael O'Sullivan qui est devenu permanent, puis à un moment directeur de la MPOB d'ailleurs. Il y avait Guillaume Lombard qui était objecteur de conscience, qui était en maîtrise d'ethnomusicologie. Et qui s'occupe maintenant du cœur, qui n'est pas là aujourd'hui, qui n'est pas là en ce moment, mais bon. Il y avait lui, il y avait Laurent Démarqué. Donc on était quand même toute une flopée comme ça de jeunes dans cette assoc, Mémoire Vive. Et en fait, la MPOB, c'est la continuité de cette association. C'est en fait, si on était un peu nomade, quoi. On était dans les greniers de la mairie d'Anneau. C'était un peu du camping. Et la MPOB, en fait, c'est la concrétisation de plusieurs décennies en fait de travail associatif, notamment avec l'UGMM, puis Mémoire Vive, qui ont été les deux associations fondatrices en fait de la MPOB, et à laquelle après se sont rattachées d'autres assos comme l'AMA, qui était l'association musicale d'Anneau, Langue de Bourgogne. C'est un conglomérat en fait d'associations, voilà, pour certaines qui ont fusionné. Mais à l'origine, c'est ça, c'est un projet associatif. L'idée, c'était d'avoir que... Moi, l'idée, à la base, c'était que les musiciens du Morvan et de Bourgogne, je devrais dire, aient un lieu à eux, quoi. Voilà. Et après, ça, c'est... Le projet s'est un peu étoffé, c'est-à-dire que on a dépassé les frontières de la musique, quoi. C'est-à-dire que c'était l'oralité. Donc la musique, la langue, le conte, les échanges, la parole. Voilà, quoi. Ça.
En ce moment, on travaille avec un chantier d'insertion des ouvriers maraîchers. Ça, c'est une de nos prestations actuelles, par exemple, où on essaye de valoriser les savoirs des ouvriers maraîchers qui sont en insertion pour qu'ils se sentent pleins de capacités. Voilà. Et pour qu'ils puissent se positionner en tant qu'eux-mêmes transmetteurs et pas juste, enfin, tu vois, requalifier leur statut au sein du jardin, au sein de l'entreprise, au sein du village, etc. Et par exemple, ça, je veux dire, concrètement, c'est quoi ? C'est, tu te lèves à 6h du matin, tu mets des baskets, un jean crado et tu vas dans la boue. Il fait 4 degrés et faut tirer des plantes, faut désherber, faut faire les planches avec les mecs parce que tu peux pas te faire ce travail sans avoir déjà travaillé avec eux longtemps. Voilà. Et tu manges le midi, on y est tout allé, hein, toute mon équipe. Hein. Tu manges le midi, il fait 2 degrés parce qu'ils ont pas de chauffage, parce que les conditions de travail en insertion c'est quand même compliqué. Donc nous on le vit avec eux, sinon on peut pas travailler avec eux. Et puis tu rentres le soir, donc tu pars de là-bas à 5h, tu rentres le soir c'est 6h et tu dis. Oh, mon Dieu, c'est dur. Et en fait, c'est ça, voilà, c'est ça. Et après, de ça, tu fais un travail d'entretien, tu essayes d'avoir, de te mettre en confiance avec les uns les autres, de trouver comment, avec quelle piste on peut faire ce qu'on fait là, mais avec des gens qui n'ont pas du tout envie de le faire au début, parce qu'ils pensent qu'ils ont rien à dire et qu'ils sont pas intéressants et quoi, voilà, et qu'ils sont dans leurs problèmes. Et tu essayes de devenir un outil pour que ça ouvre. Justement que les problèmes s'ouvrent sur d'autres choses, que les conflits salariaux s'ouvrent sur on peut peut-être en parler, voilà. Et nous notre rôle c'est ça quoi, on essaye à partir des savoirs situés des uns et des autres, de la capacité d'en parler ensemble, de faire société dans des endroits où parfois c'est ça marche plus, hein. Nous on travaille aussi avec des migrants, des ressortissants bulgares qui sont les travailleurs de la forêt, ici, les bûcherons de première ligne, quoi, qui sont les premiers sur l'échelle du dumping social local, comme les bûcherons l'ont toujours été, d'ailleurs. Et on fait le même travail de prise de confiance. Alors là, c'est quoi, concrètement ? C'est, tu vas à 19h le soir dans l'association qui est cachée derrière une espèce d'église où ils ont un café associatif où il y a 70 mecs qui parlent pas français et puis t'y vas et puis tu vas te présenter et puis t'essayes de jouer aux cartes et puis t'essayes de petit à petit de revenir, après tu viens avec un musicien, puis petit à petit on discute et puis petit à petit tu peux rencontrer des gens, tu fais des entretiens, tu essayes après vis-à-vis des collectivités territoriales d'organiser des formations pour expliquer que en fait non, c'est une culture. C'est pas on parle fort, c'est une culture. Ah non, c'est pas on fait du bruit, c'est de la musique. Tu vois, enfin voilà. Et du coup, c'est ça nos prestations de service. Et c'est ça notre outil de production. Donc c'est à partir de ça qu'on essaye de générer de la valeur. Ce qui n'est pas simple en fait.
Je suis Morgane Bouchard, coordinatrice de projet à la Maison du patrimoine oral de Bourgogne.
On est un ethnopôle du ministère de la Culture. On a été labellisé pour le travail qu'on fait sur le territoire, en lien avec les habitants. Ce qui fait que nos sujets de recherche sont vraiment basés sur ce territoire-là, du Morvan et autour, mais plus spécifiquement Morvan. Et en 2020, on a commencé un projet qui s'appelle « Déprisonner », qui est parti du fait qu'à Autun, il y a une prison circulaire panoptique, qui est en train d'être transformée en cité muséale. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a une prison à Autun. Et nous, ça nous a posé question parce que, en fait, c'est pas un établissement comme un autre et qu'il fallait quand même qu'on puisse regarder c'est qui, en fait, les personnes qui sont passées par cette prison. Et donc, avec un chercheur philosophe, on allait rechercher dans les archives. On a fait des ateliers participatifs d'épluchage de ces archives pour retrouver qui étaient les personnes qui étaient dedans. Et on s'est rendu compte que c'était beaucoup de musiciens qui étaient en fait dits comme vagabonds, parce que un musicien il joue pas que autour de chez lui, hein, pour pouvoir vivre de sa musique, et il parcourt la France. Hein. Nous, nos musiciens actuels, c'est ce qu'ils font, hein. Ils jouent pas que dans le Morvan, ils jouent aussi pas partout. Donc ça. Il y a eu vachement des échos et des résonances avec ce qu'ils jouent actuellement sur notre territoire. Il y a eu plein de personnes qui ont été aussi emprisonnées pour mendicité, parce qu'en fait, ils avaient faim. Parce que voilà, la vie dans le Morvan, c'est dur et parfois, t'as rien à manger. Enfin, il y a eu tout un travail qui a été fait pendant 2 ans autour de ça. Sauf que quand tu commences à travailler sur un sujet du territoire, il y a plusieurs autres sujets en fait qui vont venir émerger. Il y a eu d'une part toute la question de la déportation à partir de cette prison, puisqu'en fait les Autunois qui ont été déportés sont d'abord pour la plupart allés dans cette prison, puis après ont été déportés. Donc on est en train de faire tout un travail de recherche autour de cette question-là. Et la deuxième question, ça a été de se dire, est-ce qu'il y a eu d'autres lieux autour un peu pareil dont on n'aurait pas entendu parler. Et donc au même moment, on a appris que à Roussy-en-Morvan, il y avait un ancien camp de harkis qui était en train d'être, on va dire, rénové, et où il y avait tout un parcours qui était fait pour expliquer l'histoire en fait qui s'est passée là-bas. Et on a été contacté, ou on a contacté, je sais pas trop comment c'est fait, l'ONACVG, qui est l'Office national des. Alors avant c'était anciens combattants, maintenant c'est des combattants. Et victimes de guerre. Et on a travaillé avec eux sur cette question de ce camp là-bas, pour savoir qui étaient les personnes qui ont été dans ce camp, d'où elles venaient, c'est quoi leur histoire. Donc ça, c'est un travail qui a été aussi mené depuis un certain nombre de temps. Et ça a donné lieu à l'événement d'hier. Nous, on avait déjà fait venir en fait les familles des personnes qui avaient vécu dans ce camp-là. Les descendants. Et il y en avait certains qui, en fait, étaient petits dedans, qui sont revenus sur les lieux, qui ont retrouvé des anciens habitants avec qui ils étaient à l'école, qui ont retrouvé leur professeur aussi, l'école. Bon, la guerre d'Algérie, c'est très compliqué, mais en gros, quand la France leur a dit « prenez les armes pour la France et quand vous revenez, la France vous accueillera », ils ont mis en place des camps de travail, et ici, ça a été pour travailler dans la forêt, en fait. C'est pour ça qu'on l'appelait le hameau de forestage. Voilà, on a refait un événement loin de tout ce qui est officiel, juste pour qu'ils puissent venir se réapproprier leur histoire. Et on leur a dit qu'à ce moment-là, il y allait avoir une cérémonie officielle. Et on leur a demandé s'ils voulaient bien qu'on fasse quelque chose avec eux, tout ça, ce qu'ils ont accepté. Donc c'était cool. Donc hier, il y a eu la cérémonie officielle de ce hameau sur place, à Roussillon. Cette cérémonie officielle, elle permettait de, on va dire, inaugurer tous les panneaux explicatifs qui a été fait par l'ONACVG, cet office national en fait des combattants, a fait des panneaux explicatifs sur ce camp. Et vu qu'ils l'ont restauré, c'est vraiment maintenant un lieu où on explique l'histoire qui s'est passée là-bas. Là, t'as le baraquement qui a été restauré. Tu vois que les pâtures sont belles. Et donc, t'as des panneaux comme ça qui sont mis un peu partout, qui expliquent en fait l'histoire de comment était cet hameau de forestage avant, avec des anciennes photographies, des textes explicatifs. Et donc, t'as plein de panneaux comme ça un peu partout, et c'est ça qu'ils sont venus inaugurer, en fait. Sur le panneau, au harki, la patrie reconnaissante. Sauf que nous, on peut pas laisser ça que comme ça. Nous, on travaille avec les gens et pour les gens, et ça suffisait pas. On peut pas juste faire quelque chose comme ça. Donc, on a ouvert tout un espace de dialogue à la Maison du patrimoine oral de Bourgogne pour expliquer tout ce travail qui a été fait et comment, par le contact qu'on a pu lier avec eux, on a pu aussi retracer pour eux leur histoire familiale. Il y avait beaucoup de non-dits et on leur a ouvert les archives, quoi. Donc il y a eu des temps où les familles ont découvert ensemble les archives, ont pris vraiment conscience de ce qui se passait là-bas et de tout, ils ont pu reconstituer un pan de leur histoire familiale qu'ils n'avaient pas en fait. Ça demande énormément de temps de travail en amont parce que vu que c'est à chaque fois adossé à notre sujet de recherche, ben des fois il arrive vachement tard après qu'on ait commencé la recherche. Tu vois, je te parlais de déprisonner autour de cette prison à Autun. On a fait la restitution en septembre l'année dernière, alors que le projet il a commencé depuis des années avant, tu vois. C'est des sujets qui sont vraiment en lien avec le territoire, mais dont le territoire ne parle pas trop. Il y a beaucoup de tabous en fait autour de certains sujets que nous on saisit. Donc il faut le temps aussi que les paroles elles puissent se délier, que les gens ils puissent prendre confiance et savoir qu'on va pas faire n'importe quoi de leurs paroles. Alors ceux qui sont autour maintenant, ils connaissent bien la Maison du patrimoine oral de Bourgogne, il n'y a pas de souci. Mais les descendants de harkis, ils sont dans le sud de la France, donc ils ne nous connaissent pas. Donc ce qui fait qu'il y a eu tout un travail où au début, ils nous raccrochaient au nez. Bah, c'est normal. Vous êtes qui? Pourquoi vous vous intéressez à ce sujet-là? On ne vous connaît pas, vous êtes de super loin. Donc il a fallu voilà, rencontrer une personne, aller sur place, rencontrer les autres. Et voilà, ça a été, c'est un travail long parce que c'est de la relation humaine, en fait. Et en fait, ça a été un hasard total au début. C'est-à-dire que la personne qui travaillait sur ce sujet, alors entre avant et en même temps que Théophile, en fait, elle habitait à Roussillon-en-Morvan, à côté de l'école. Et il s'avère qu'un des descendants d'Arki était venu en fait en vacances à Roussillon, vers l'école, pour aller voir là où son je crois que c'est son père, là où son père avait été. Et il est retourné sur les lieux pour voilà, en savoir plus. Et en fait, ils se sont rencontrés à ce moment-là, parce que son jardin était dans l'école, elle. Donc ils se sont rencontrés dans son jardin. Ils ont dit « Ah, bah, qu'est-ce que vous faites là ?» Et il lui a parlé de l'histoire. Il lui a dit « Mais attendez, je travaille sur ce sujet, il faut qu'on reste en contact, en fait. » Et il l'a invité à venir chez lui. Donc elle est descendue, et c'est là où elle a pu avoir des contacts avec d'autres personnes. Et où le premier lien, en fait, s'est tissé. Parce que sinon, on savait pas du tout où ils étaient. Nous, on a les traces dans les archives. Mais en même temps, c'était sur la vie dans ce hameau-là, on n'a pas la suite, quoi. Et en fait, à chaque fois, c'est comme ça dans les projets. Il se passe un moment où on se dit, tiens, on est en train de réfléchir à ce sujet en se disant, nous, c'est important. On sent qu'il y a quelque chose, en fait, au niveau du territoire qui se passe et il faut qu'on soit là. Et au même moment, il y a quelqu'un qui est dans le sud, qui monte et qui dit, en fait, que pour lui, c'est important, cette histoire-là. Et là, il y a rencontre. Et c'est pas la première fois que ça se fait. J'ai envie de dire qu'à chaque fois, nous, on écoute beaucoup le territoire et en fait, on travaille beaucoup à partir de nos intuitions, de ce qui se passe. Et à chaque fois, c'est assez juste, quoi. Bah, tu vois, c'est autour de l'histoire de la déportation aussi. On travaille sur le sujet de la prison parce qu'on trouve que c'est important. Et en fait, on commence à faire des ateliers. Et au même moment, en fait, ça commence à être un petit peu la fin de comment il s'appelait cette association. L'association des fils et filles de déportés. Et en fait, on rencontre quelqu'un. Moi, j'ai passé beaucoup de coups de téléphone pour pouvoir faciliter le terrain après de Théophile, de prendre des contacts sur place de qui était. Et là, on tombe sur une dame qui dit « Bah ouais, moi, j'ai été dans la prison d'Autun in utero parce que ma mère a été enfermée et déportée alors qu'elle était enceinte de moi. Et je vais vous raconter l'histoire et j'ai des trucs à vous dire, quoi. » Et hop, et là on part de ce sujet-là, on se dit ok, donc on connaît quelqu'un qui a vraiment été dans la prison au moment où elle était en fonctionnement. Certes, in utero, mais quand une des premières choses qu'on me dit c'est ça, c'est que c'est important pour toi. Et donc toute la famille a tout un lien avec la déportation à partir de là. Et là on se dit ok, et ben on va partir aussi dans cette voie-là, quoi. Alors c'était pas la première voie sur laquelle on partait, nous c'était juste est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent des gens dans leur famille, dans leur entourage, qui auraient connu cette prison d'Autun quand elle a été en activité ou non, parce qu'après ça a été un garde-meuble, ça a été un parking, on voulait juste avoir des infos sur l'histoire un peu de ce bâtiment à travers l'œil des gens. Et en fait, il y a un autre sujet qui est arrivé à ce moment-là, et elle nous a dit « j'arrive plus à travailler sur le sujet de la déportation, je suis un peu toute seule, est-ce que vous avez des éléments ?» Et on est parti dans cette voie-là. Et maintenant, il y a un atelier tous les mois avec les habitants pour ouvrir les dossiers des déportés et regarder leur parcours, où est-ce qu'ils sont passés, et mieux comprendre cette histoire locale-là dont les gens ne parlent pas trop, quoi. Parce que voilà, c'est un peu... Je sais pas si ça fait un peu mal d'en parler, mais tu vois, c'est des histoires aussi douloureuses, familiales, dont les personnes qui sont revenues de la déportation n'ont pas trop parlé. Donc il y a eu aussi des tabous. Et encore une fois, c'est faire en sorte que du coup, les descendants puissent se ressaisir de cette histoire-là familiale. Et il fonctionne bien, hein, cet atelier. Il y a 20 participants qui reviennent tous les mois, qui vont du collège. Il y a un collégien qui est venu la première fois en disant « Ma prof d'histoire, elle m'a dit qu'il y avait un truc, je vais venir voir ce que c'est. » Et elle a dit « C'est trop bien. » Donc il revient tous les mois. Ses parents le posent, ils vont faire des trucs. Et puis lui, il passe 3 heures, 4 heures à éplucher du coup les dossiers, à être le nez dans les archives. Nous, on ne fait pas de la recherche tout seul. Des fois, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est vraiment de la recherche action participative. C'est-à-dire que nous, juste ouvrir les dossiers et puis retracer nous les choses, on pourrait le faire. Il y a plein de chercheurs qui font ça. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut que ce soit les personnes, en fait, qui se saisissent de ces sujets-là. Et c'est pour ça qu'on est la fabrique sociale orale.
Comment faire
réalisé par Marion Pourry et produit par la Maison du patrimoine rural de Bourgogne. Toutes les prises de son ont été effectuées lors de la résidence à la Maison du Beuvray la semaine du 14 juillet 2023. Nous remercions tous les participants.
Gérard Fréta, Gabriel Esmaillot, Alain Marie Fresco, Elisabeth Petit-Fossé, Christine Alichet, Nicole Duchemin, Marie-Michel Fromet, Patrick Marie-Joseph Avant-Saint-Méni, Françoise Vernaton, Nathalie Chantal Anne Galjou, Justine Schneider, Aline Pilon, Marion Bourillon, Pascal Zoranqui, Vincent Belin, Jean-Pierre Tardoff, Marion, Nathalie Camille, Marie-Claude, Justin Thierry Tournebille, Annie Sepp, Francine Valdener,